Bien, chers collègues, nous allons commencer. Alors, tout d'abord, je souhaite une bonne et heureuse année 2015 à ceux à qui je n'ai pas encore eu l'occasion de le faire, puisque c'est le premier conseil municipal de l'année. Désignation d'un ou d'une secrétaire de séance, je propose René Sauvera. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté. Je vous fais état des procurations. Alors, Madame Sonia Collot est excusée, m'a donné procuration. Et Fanny Biscara a donné procuration à Vincent Théoki. Qui va arriver. Je vous fais état également de quelques remerciements. Enfin, d'abord, je suis chargé de vous transmettre les vœux de Raphaël Gesselin, ancienne DGS ici et DGS de Bédouin, à tout le conseil municipal. Nous avons l'association des accidentés de la vie qui nous remercie pour l'attribution de la subvention de 200 euros. Et la section volleyball de la MJC de Jonquière nous remercie pour le prêt du gymnase pour l'organisation des matchs de Coupe de Provence et de France de volley qui se sont déroulés en novembre dernier. Nous passons à l'approbation du procès-verbal de la dernière séance qui, comme vous le savez, est réduit à sa plus simple expression puisque tous nos débats, tous nos échanges sont désormais enregistrés. J'en profite pour rappeler à tous les élus, de bien parler dans le micro afin que vous soyez audibles. Donc, qui est contre le procès-verbal ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Madame Thibault.
J'ai une question. Avez-vous la procuration de Madame Chomel ?
Non.
Bien.
Non, non. Eh bien, nous passons à l'ordre du jour. Donc, rapport numéro 1, forfait communal pour les classes de découverte et les sorties pédagogiques. Versement d'un acompte, rapporteur Jean-François Leroy.
Dossier numéro 1, forfait communal pour les classes de découverte et les sorties pédagogiques, versement d'un acompte. Conformément aux articles L442-5 et R442-44 du Code de l'éducation nationale, qui précisent que les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public pour les élèves domiciliés sur leur territoire. Considérant que les sorties pédagogiques et les classes de découverte des écoles publiques sont organisées sous couvert de l'amicale laïque. Considérant que les sorties pédagogiques et classes découvertes de l'école privée Saint-Andéol sont organisées sous couvert de l'appel Saint-Andéol. Considérant que l'équité entre les écoles publiques et privées sur la commune implique de ne prendre en considération que pour l'école Saint-Andéol que les élèves résidant sur Camaret-sur-Aigue et âgés de plus de 3 ans. Considérant la nécessité de préciser les modalités d'attribution des aides aux classes de découverte et sorties pédagogiques, vu le budget de la commune, vu l'avis de la commission des finances le 12 janvier 2015, il est demandé au conseil municipal d'approuver pour les classes de découverte l'attribution d'un forfait annuel de 15 euros par nuitée et par élève, dans la limite de 4 nuitées et d'une classe par groupe scolaire, soit un versement total de 60 euros par élève, sur présentation d'un état des frais réellement engagés. d'approuver pour les sorties pédagogiques l'attribution d'une enveloppe de 30 euros maximum par élève répartie à hauteur de 5 euros par sortie et de 2,50 euros par intervention sur présentation d'un état des frais réellement engagés. Autoriser Monsieur le maire à verser un acompte à hauteur de 60% de la subvention attribuée l'année précédente à l'amicale laïque et à l'appel. Les crédits correspondants sont inscrits en section de fonctionnement à l'article 6574 du budget principal 2015. Il est précisé que le versement du solde des subventions concernées fera l'objet d'une délibération ultérieure et après production des états réalisés d'autre part.
Bien, y a-t-il des questions ? Pas de questions. Nous passons au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Rapport numéro 2, contrat local d'accompagnement à la scolarité, renouvellement de la convention d'objectifs et de financement de la caisse d'allocation familiale de Vaucluse, rapporteur Jean-François Leroy.
Le contrat local d'accompagnement à la scolarité, CLASS, est un dispositif d'aide à la scolarité en direction des enfants scolarisés en établissement primaire jusqu'au lycée. Il s'inscrit dans les objectifs et les principes d'action définis par la Charte nationale de l'accompagnement de la scolarité. Le CLASS, enjeu des politiques éducatives territoriales, vise au renforcement de l'égalité des chances des enfants et des jeunes et concourt à la prévention des difficultés des enfants en lien avec leur scolarité. Ce dispositif figure parmi les leviers de la politique d'action sociale des CAF en matière de soutien à la parentalité. Il participe à la valorisation des compétences et des responsabilités éducatives des parents. L'accompagnement à la scolarité est organisé durant l'année scolaire, en dehors du temps de l'école, et est distincte des actions d'aide individualisées ou de soutien scolaire mis en œuvre par les établissements scolaires. Centrées sur l'enfant, les actions doivent susciter son adhésion et celle de sa famille, faciliter les relations famille-école, accompagner et aider les parents dans le suivi et la compréhension de la scolarité de leurs enfants. La municipalité de Camaret-sur-Aigle souhaite que se poursuive la mise en œuvre d'un accompagnement scolaire au profit des jeunes camarétois. Cela implique la signature d'une convention avec la Caisse d'allocation familiale du Vaucluse. Pour l'année 2014-2015, la CAF de Vaucluse propose une convention qui définit et encadre les modalités d'intervention et de versement de la prestation de service contrat local d'accompagnement à la scolarité. Le versement de la prestation de service sera effectué sous réserve des disponibilités de crédit et de la production de documents intermédiaires d'activité à transmettre en fin de chaque trimestre de l'exercice de droit. Vu la proposition de convention relative aux modalités d'intervention et de versement de la prestation de service, contrat local d'accompagnement à la scolarité pour l'année 2014-2015, considérant l'intérêt pour les jeunes camarétois de bénéficier d'un accompagnement scolaire, il est proposé au conseil municipal d'approuver la convention avec la CAF de Vaucluse relative au contrat local d'accompagnement scolaire conclu du 1er septembre 2014 au 30 juin 2015, d'autoriser Monsieur le maire à signer cette convention et tout document y afférent. Vous avez en pièce jointe les documents de la CAF.
Bien, y a-t-il des questions ? Eh bien, je passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté, je vous en remercie. Alors, rapport numéro 3, travaux du tour de ville, phase finale, demande de subvention au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux. L'article 179 de la loi du 29 décembre 2010, dite loi de finances pour 2011, crée une dotation unique intitulée Dotation d'équipement des territoires ruraux, DETR, issue de la fusion de la dotation globale d'équipement des communes, DGE, et de la dotation de développement rural, DDR. Cette dotation a pour but de financer la réalisation d'investissements ainsi que des projets dans le domaine économique, social, environnemental et touristique ou favorisant le développement ou le maintien des services publics en milieu rural. La commune de Camaret est éligible à l'attribution de cette dotation pour l'année 2015. La commune a pour projet de finaliser le programme de réfection du tour de ville engagé depuis 2011. La municipalité a lancé une étude approfondie concernant la phase finale des travaux et les principes d'aménagement. Les dernières tranches de travaux du tour de ville consisteront dans la reprise du réseau d'eau pluviale et de la voirie très dégradée sur le cours du Midi, le cours du Levant et le cours du Nord, avec poursuite d'une zone 30 km/h pour sécuriser les déplacements doux. La création d'une circulation piétonne réglementaire qui offrira aux personnes à mobilité réduite l'espace libre nécessaire à leur déplacement. Le maintien de places de stationnement, l'aménagement de l'intersection tour de ville rue Marie Curie, l'implantation de végétaux en dehors des circulations piétonnes, l'éclairage approprié et réglementaire. Vu l'étude réalisée par le bureau d'études Caprim portant sur le montant estimatif des travaux pluriannuels à 709 531,20 d'euros hors taxes et hors réseau, considérant qu'une demande de financement peut être présentée auprès des services de l'État au titre de la DETR, considérant que l'opération relève de la catégorie investissement de voirie et d'équipements communaux pour lesquels le taux de subvention est de 25 à 35% pour une dépense subventionnable plafonnée à 150 000 euros, vu le nouveau plan de financement prévisionnel de l'opération. État, subvention pour travaux divers d'intérêt local, réserve parlementaire, 25 000 euros. Conseil général de Vaucluse, contractualisation 2014, 74 800 euros. Conseil général de Vaucluse, contractualisation 2015, 74 800 euros. Conseil général de Vaucluse, amende de police 2014, 21 000 euros. Conseil général de Vaucluse, amende de police 2015, 21 000 euros. État DETR 2015, 150 000 euros. Commune de Camaret-sur-Aigue, 342 931 et 20 centimes d'euros. Il est demandé au Conseil municipal d'approuver le nouveau plan de financement prévisionnel ci-dessus, que je ne vais pas vous répéter puisque c'est ce que je viens de dire, de solliciter auprès de Monsieur le préfet de Vaucluse une subvention à hauteur de 35% du montant hors taxe des travaux, soit de 150 000 euros, au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux 2015, d'autoriser Monsieur le maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. Y a-t-il des questions ? Non. Eh bien, je passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Dossier numéro 4. Tarif des repas et demandes de subvention de la fête du plan de Dieu le 26 avril 2015. Rapporteur Elvire Théoki.
La commune de Camaret-sur-Aigue souhaite organiser la 7e édition de la fête du plan de Dieu. La balade gourmande à l'occasion de la fête du plan de Dieu a connu un nouveau succès en 2014, grandissant avec 900 participants. Depuis 2011, la manifestation constitue un véritable outil de développement économique et touristique. Un partenariat avec les acteurs économiques du territoire a été créé. Syndicat AOC Plan de Dieu, chambre d'hôtes, restaurateurs, UCAV. Dans cette perspective, il est proposé de solliciter une subvention auprès du Conseil régional PACA, du Conseil général de Vaucluse, de la communauté de communes Aigues-Ouvèze en Provence, la CCAOP, et de la commune de Travaillant, d'organiser un repas avec participation financière des participants, de proposer des objets souvenirs à la vente. Vu le code général des collectivités territoriales, vu le budget de la commune, vu la délibération du conseil municipal en date du 30 avril 2003 portant création d'une régie de recettes et d'avances, fêtes et animations. Considérant que cet événement a une portée intercommunale, départementale et régionale, une subvention à la CCAOP, au Conseil général de Vaucluse, ainsi qu'au Conseil régional PACA sera demandée. Considérant qu'il est nécessaire de définir les tarifs de participation au repas organisé par la municipalité dans le cadre de cette manifestation, considérant qu'il est intéressant en termes de promotion de proposer des objets souvenirs, vu l'avis favorable de la commission des finances du 12 janvier 2015 et de la commission culture, patrimoine et tourisme du 14 janvier 2015, il est demandé au conseil municipal d'approuver le budget prévisionnel de la manifestation. Donc vous avez un tableau avec les dépenses, animation 5 000 euros, repas 29 000 euros, communication 2 000 euros, divers, location, matériel, les navettes 3 000 euros, total 39 000 euros. Les recettes en TTC, la commune de Camaret-sur-Aigues 2 255 euros, la commune de Travaillant 545 euros, le syndicat AOC 1 500 euros, sponsor Crédit Agricole 300 euros, les ventes tickets repas 25 200 euros, objets souvenirs 200 euros, subvention conseil général 4 000 euros, conseil régional 4 000 euros et la CCAOP 1 000 euros. Total 39 000 euros. D'autoriser Monsieur le maire à solliciter une subvention auprès de la commune de Travaillant, de la CCAOP, du conseil général de Vaucluse et du conseil régional PACA. D'approuver les tarifs de participation au repas à l'occasion de la balade gourmande du 26 avril 2015 comme suit. Repas des participants, 28 euros par adulte et 8 euros par enfant de moins de 12 ans. D'approuver les tarifs de vente d'objets souvenirs, chapeau 5 euros, tablier 10 euros. Il est précisé que ces recettes seront perçues par la régie fêtes et animations et encaissées sur le compte budgétaire 7062 sur certificat administratif pour les repas et sur quittance pour les objets souvenirs.
Y a-t-il des questions ? Monsieur Accusé. Oui.
Oui, je voulais savoir si la fête du plan de Dieu aura lieu que le 26 avril ou sera programmée sur deux jours.
Sur une seule journée, oui.
Une seule journée. Donc, normalement, pour obtenir les subventions du conseil régional, il faut que la manifestation dure au moins deux jours. Donc, sur quelle subvention vous allez demander ?
On va demander la subvention au conseil.
Il est en train de...
Oui. Alors, c'est très frais. Nous venons d'apprendre que, a priori, la soirée tapas qui avait lieu, ou la soirée qui avait lieu donc la veille du 26, finalement sera maintenue. Ce qui fait qu'on pourra considérer que la manifestation va se dérouler sur deux jours.
D'accord. Donc il n'y aura pas d'autres visites de cave comme était prévu avant ?
A priori, non.
Parce que juste un repas le soir, je ne sais pas si le conseil régional considérera que la manifestation sera réellement sur deux jours.
Nous verrons bien. Monsieur Mengui.
Ah bon,
oui, ça devait. J'espère bien.
Ne soyez pas impatient.
Y a-t-il d'autres questions ? Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Dossier numéro 6, tarif des thés dansants. Dossier numéro 5, il faut que je change de lunettes. Tarif des thés dansants organisé par la commune de Camaret, rapporteur non pas Annick Guerrero qui est extrêmement grippée, mais ce sera moi qui vais rapporter le dossier. La commune de Camaret-sur-Aigue envisage d'organiser des thés dansants à l'espace René-Roussière, certains mardis après-midi, selon un calendrier annuel qui sera défini ultérieurement. Le premier thé dansant est programmé pour le mardi 27 janvier 2015. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le budget de la commune, vu la délibération du conseil municipal en date du 30 avril 2003 portant création d'une régie de recettes et d'avances, fêtes et animations, vu l'avis de la commission des finances réunie le 12 janvier 2015, considérant qu'il est nécessaire de définir le tarif de l'entrée pour l'ensemble des thés dansants organisés par la municipalité ainsi que le tarif des boissons, il est demandé au conseil municipal d'approuver les tarifs suivants. 10 euros l'entrée au thé dansant organisé par la municipalité comprenant deux boissons, 50 centimes le verre de café, de thé et des jus de fruits. Il est précisé que ces recettes seront perçues par la régie fêtes et animations et encaissées à l'article budgétaire 7066. Y a-t-il des questions? Eh bien, nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Monsieur Arcusé. Adopté à la majorité, je vous en remercie. Dossier numéro 6, convention entre l'État et la commune relative au raccordement d'une sirène étatique au système d'alerte et d'information des populations. Rapporteur Lionel Muret.
Le livre blanc sur la défense et la sécurité nationale de 2008 a fixé la modernisation de l'alerte des populations comme un objectif prioritaire de l'action gouvernementale. Il s'agit de doter les autorités de l'État, mais aussi les communes, d'un réseau d'alerte performant et résistant, en remplacement de l'ancien réseau national d'alerte RNA de l'État, constitué de 3900 sirènes, prévues surtout pour une attaque aérienne. Les services de la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion de la crise, DGCS-CGC, ont en conséquence conçu un nouveau dispositif, le système d'alerte et d'information des populations, SAIP. Il repose sur une logique de bassin de risque sur lesquels seront positionnés les moyens d'alerte les plus efficaces, dont des sirènes d'alerte, eu égard aux circonstances locales, urbanisme, bruit, ambiance, sociologie de la population. Les préfectures ont utilisé, sollicité en 2010 à la fois pour effectuer un recensement national des sirènes et pour déterminer leurs besoins complémentaires en moyenne d'alerte au vu du parc recensé, de la couverture optimale des bassins de risque dans le département et des éléments de météorologie qui leur ont été fournis. Le dénombrement de la caractérisation par des moyens d'alerte ont permis aux acteurs de l'alerte et de l'information des populations de disposer de la cartographie la plus exhaustive et plus fiable possible des moyens existants. Un principe de cotation nationale des zones d'alerte a été élaboré par la DGSCGC et appliqué par les préfectures avec une coordination de l'application des critères assurés par les états-majors interministériels de zones pour déterminer des zones d'alerte prioritaires. Cette cotation prend en compte la population, sa densité ainsi que l'intensité cinétique et la prévisibilité du risque. 640 zones d'alerte de priorité, une ont été ainsi identifiées sur un total de 1744 zones pour l'ensemble du territoire métropolitain. La sirène est l'objet de la convention implantée dans une de ces zones d'alerte de priorité 1, a vocation à être raccordée au SAIP lors de la première vague de déploiement en cours. Vu l'article L1 du Code général de la propriété des personnes publiques, vu l'article L2212-2 alinéa 5 du Code général des collectivités territoriales, vu le décret 2005-1269 du 12 octobre 2005 relatif au Code national d'alerte. Considérant qu'une convention est nécessaire dans le cadre du raccordement du système d'alerte et l'information des populations d'une sirène d'alerte propriété de l'État, installée sur un bâtiment, en l'occurrence l'hôtel de ville, propriété de la commune de Cavalry-sur-Aigle. Il est précisé que ce raccordement permettra le déclenchement de cette sirène à distance, vu l'application SAIP et le réseau INPT, infrastructure nationale partageable des transmissions du ministère de l'Intérieur. Le déclenchement manuel en local de la sirène par le maire de Cavalry-sur-Aigle restera possible en cas de nécessité. L'utilisation du SAIP par le maire de la commune fera l'objet d'une convention spécifique. Il est demandé au conseil municipal d'ouvrir les termes de la convocation, d'approuver les termes de la convocation et d'autoriser M. le maire à signer cette convention sur tout document relatif à ce dispositif.
Bien, y a-t-il des questions ? Pas de questions, je passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Dossier numéro 7. Mise en place du rappel à l'ordre. Rapporteur Lionel Muret.
La loi 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance renforce le rôle du maire chargé d'animer et de coordonner la politique de prévention de la délinquance. Il confère des moyens pour assurer cette mission. Le maire est ainsi habilité à procéder à un rappel à l'ordre pour les incivilités et pour les faits susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publique. Cela concernait principalement les conflits de voisinage, l'absentéisme scolaire, la présence constatée de mineurs non accompagnés dans les lieux publics à des heures tardives, certaines atteintes légères à la propriété publique, des incivilités commises par des mineurs, les incidents aux abords des établissements scolaires, certaines contraventions aux arrêtés du maire, certaines nuisances sonores, certains écarts de langage. Le rappel à l'ordre est en toute hypothèse exclu s'agissant d'effets susceptibles d'être qualifiés de crimes ou de délits lorsqu'une plainte a été déposée dans un commissariat de police ou une brigade de gendarmerie, lorsqu'une enquête judiciaire est en cours. Le rappel à l'ordre sera précédé d'une consultation du parquet de Carpentras quant à son opportunité. Le rappel à l'ordre est verbal. Il est effectué par le maire ou par l'adjoint délégué à la sécurité. L'auteur du fait est convoqué à un entretien par un courrier officiel. Les parents, le responsable éducatif de l'auteur ou destinataire d'une copie de la convocation. Le rappel à l'ordre d'un mineur intervient sauf impossibilité en présence de ses parents, de ses représentants légaux ou, à défaut, d'une personne exerçant une responsabilité éducative à son égard. Vu l'avis de M. le procureur de la République, près le tribunal de grande instance de Carpentras, en date du 25 août 2014, et considérant la nécessité de signer avec lui une convention pour mettre en place le dispositif du rappel à l'ordre à Cavalry-sur-Aigle. Il est demandé au conseil municipal d'autoriser le maire à signer la convention entre la commune de Cavalry-sur-Aigle et M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Carpentras pour la mise en œuvre de ce dispositif.
Madame Thibault.
Oui, merci. Bien. À la lecture de ce rapport de présentation, en fait, il s'agit simplement d'une formalisation. Il n'y a rien de nouveau par rapport à ce qui s'est toujours fait. D'ailleurs, c'est confirmé par un document d'évaluation de la politique de la prévention de la délinquance et qui comprend donc le rappel à l'ordre par le maire, qui est d'abord une convention qui est signée souvent avec l'inspecteur des services judiciaires et qui a été mis en place aussi par l'inspecteur général d'éducation nationale. Donc voilà, il n'y a rien de nouveau, je dirais, par rapport à cette délibération. C'est simplement une formalisation. C'est une pratique qui était en cours, je dirais, avant par mon prédécesseur, qui a été mis en place aussi par moi, effectivement. Il n'y a pas eu de publicité là-dessus, et aujourd'hui, vous ne faites que formaliser. On rappelle simplement le souhait, je dirais, de, par rapport à cette mise en place du rappel à l'ordre. J'espère que vous, monsieur le maire, c'est vous qui opérerez, je dirais, à ce rappel à l'ordre, que, enfin, je dirais, par rapport à la... au village de Camaret, et pour une confidentialité, parce que quand même ce sont des troubles mineurs, hein, on rappelle que ce sont des troubles mineurs, voilà, pour pas qu'il y ait une publicité et que le jeune mineur ne se retrouve pas en difficulté par rapport à un fait qui, je rappelle, serait mineur, parce que le reste après ça reste du domaine de la gendarmerie. Voilà, c'est ce que je voulais dire par rapport à cette délibération. Donc ça, j'ai le rapport, je vous invite à le regarder, qui est assez intéressant et qui rappelle vraiment toutes les clauses et les limites de la mise en place de ce rappel à l'ordre.
Oui, madame Thibault, ben, vous me permettrez de ne pas être d'accord avec ce que vous dites quand vous dites qu'il n'y a rien de nouveau, puisque en réalité ce dispositif légal date de 2007 et vous avez été élu en 2008 et vous ne l'avez pas mise en œuvre. En fait, ce qui a été fait ou pas, de toute façon, ça n'a pas eu d'existence légale, ce n'était absolument pas dans un cadre légal. Comme vous le dites, effectivement, il faut absolument bien encadrer ce genre de dispositif, ne pas déborder, ne pas rappeler à l'ordre pour n'importe quelle infraction ou incivilité. En ce qui concerne ce que vous avez indiqué concernant la confidentialité, c'est dans la loi, c'est dans le dispositif légal, mais comme vous ne l'avez pas appliqué, effectivement, voilà. Donc c'est pas la peine de le dire, c'est dans la loi.
Oui.
Ce qui est nouveau, c'est que donc ce dispositif est mis en place en respectant la procédure et la loi, et donc avec le soutien du procureur de la République de Carpentras, non seulement avec son soutien, mais avec sa participation. Parce que, comme vous ne l'avez pas dit, en fait, chaque rappel à l'ordre doit être précédé par une saisine du procureur de la République.
Oui, tout à fait.
Voilà, donc, ce qui est nouveau, c'est que nous allons appliquer la loi.
Formaliser.
Et simplement, nous allons appliquer la loi et mettre en œuvre ce processus que vous dites avoir fait précédemment, mais ce que je ne comprends pas très bien, c'est que le dispositif date de 2007, que vous avez été élu en 2008 et que vous ne l'avez pas appliqué.
Là, je rappelle, c'est simplement une formalisation, parce que quand on lit le rapport, il ne s'agit pas en fait d'une création, mais de l'officialisation d'une pratique usitée par de nombreux maires fondée sur une approche donc de bon sens, enfin j'aime pas le mot de bon sens, de situation conflictuelle. Voilà, cet article de loi ne faisait que formaliser une pratique déjà utilisée par certains maires à l'encontre donc de troubles mineurs à l'ordre public qualifié d'incivilité. Alors, je sais pas ce qui vous laisse dire que j'ai pas appliquer la loi ou que j'ai... Non, rien ne vous laisse penser ou le dire, enfin je vous laisserai pas dire que je n'ai pas... J'étais hors la loi parce que c'était dans le cadre d'un travail avec la gendarmerie, monsieur... Oui, parce que je travaillais avec la gendarmerie, main dans la main, la police municipale. C'était pas des rappels à l'ordre de ma propre initiative, monsieur le maire. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Alors, je rappelle, j'ai agi en toute légalité avec la gendarmerie et les services de la police municipale. Je ne vous laisserai pas avancer de choses pareilles.
Je suis d'un avis différent, puisque cette délibération, je ne l'ai pas vue au cours de votre mandat. Si vous aviez appliqué la loi, vous auriez vous auriez fait voter cette délibération et signé cette convention avec le procureur de la République. Vous ne l'avez pas fait. En tant que conseiller municipal, puisque j'étais dans l'opposition, je ne l'ai vu à aucun moment. Donc, on ne peut pas dire que vous avez respecté la légalité.
Oui, mais monsieur, oui, je ne vais pas insister parce que vous allez... C'est quand même un peu léger. Enfin, votre attaque habituelle est légère.
C'est votre attitude qui a été légère pendant ces 6 années.
Mais non, monsieur de Beauregard, les rappels à l'ordre ont été faits, je dirais, dans un contexte tout à fait légal. Et surtout pas sur la place publique. Ça, j'attends la suite pour vous concernant.
Ben, je vous demanderai de ne pas nous faire de procès d'intention.
Alors,
monsieur Mengui,
oui, vous expliquez. Quand vous étiez dans la minorité, on vous a jamais non plus demandé de signer une telle convention. Non, vous nous avez jamais interpellé en conseil municipal pendant toute la période du mandat pour nous dire il existe une convention, je vous demande de la faire appliquer. On vous a jamais entendu là-dessus.
Alors là,
on vous a pas empêché de faire du rappel à l'ordre d'une autre façon.
Je vous demande de vous rapporter au PV des précédents conseils municipaux. Bien entendu que j'ai parlé de ce dispositif. J'en ai parlé aussi dans la campagne électorale, dans mon programme électoral. J'étais le seul à le faire d'ailleurs. Et lorsque on avait évoqué, parce que c'était un problème qui était rarement évoqué en conseil municipal au cours de vos 6 années de mandat, mais c'était quand même de temps en temps évoqué, j'ai demandé justement des rapports, des diagnostics, des chiffres précis, des faits, et je n'ai pas obtenu grand-chose.
Vous ne nous avez pas demandé la signature d'une convention. Sortez-nous votre intervention en conseil municipal pendant la période où vous étiez donc dans l'opposition, où vous nous auriez demandé la signature d'une convention.
Chers collègues, nul n'est censé ignorer la loi. Elle date de 2007. C'était à vous de l'appliquer. C'est pas mon rôle de faire en sorte que vous appliquiez la loi. C'est à vous de le faire. Alors, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, et je vous en remercie. Dossier numéro 8, mise en compatibilité du plan d'occupation des sols, rapporteur Christine Winkelmann.
Vu le code de l'urbanisme et notamment les articles L123-16 et L300-6, vu le plan d'occupation des sols, POS, approuvé le 30 juin 1992, modifier les 19 décembre 2001, 17 février 2003 et 26 septembre 2006. Vu la procédure de déclaration de projet menée par le Conseil général de Vaucluse pour le recalibrage de la RD23 entre Camaret et la D977 Sablé. Vu la décision du vice-président du tribunal administratif de Nîmes, 1330 du 13 décembre 2013, désignant M. Jean Tartanson en qualité de commissaire enquêteur titulaire et M. Jean-Claude Reboul en qualité de commissaire enquêteur suppléant. Vu l'arrêté de M. le préfet de Vaucluse prescrivant l'ouverture d'une enquête publique unique, préalable à la déclaration d'utilité publique du projet de recalibrage de la RD43 entre Camaret-sur-Aigle et la RD977 Sablé, portant sur la mise en compatibilité des documents d'urbanisme des communes de Camaret-sur-Aigle, Travaillant, Violès et Sablé. Vu les pièces constatant l'accomplissement des formalités de publicité et d'affichage de l'annonce de l'enquête publique. Vu le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint du 07 janvier 2014 concernant la mise en compatibilité des documents d'urbanisme des communes de Camaret-sur-Aigle, Travaillant, Violès et Sablé. Vu le registre d'enquête publique ouvert en mairie de Camaret-sur-Aigle dans le cadre de cette enquête qui s'est déroulée le 15 septembre 2014 au 17 octobre 2014 inclus. Excusez-moi pour... Vu les conclusions en date du 21 novembre 2014 de monsieur le commissaire enquêteur et l'avis favorable émis par ce dernier à l'égard de l'intérêt général du projet et de la mise en compatibilité envisagée, il est demandé au conseil municipal d'approuver la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols pour permettre la réalisation du projet de recalibrage de la RD 43 entre Camaret-sur-Aigle et la RD 977 Sablé sur le territoire communal, à savoir la modification de la rédaction des articles NC1 et NC2 afin d'autoriser les travaux nécessaires à la réalisation du projet. La création de l'emplacement réservé 14 au bénéfice du département du Vaucluse. La présente délibération fera l'objet d'un affichage pendant un mois en mairie de Camaret-sur-Aigle. Mention de cet affichage sera insérée en caractère apparent dans le journal diffusé dans le département. D'une publication au recueil des actes administratifs communes de 35 000 habitants et plus. 3 500 habitants et plus, pardon. Excusez-moi.
Alors, c'est pas que Mme Winkelmann soit attristée particulièrement, mais c'est qu'en fait, elle est sévèrement grippée, elle aussi. Y a-t-il des questions ? Oui, je vais prendre le relais. Pas de questions. Je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Alors, rapport numéro 9 que je vais rapporter. Convention de transition entre l'État et la commune de Camaret pour l'accompagnement de l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme. L'instruction des actes d'urbanisme par les services de l'État pour le compte des collectivités repose sur les dispositions du Code de l'urbanisme qui prévoit que dans certaines conditions, le maire ou le président de l'établissement public compétent peut disposer gratuitement des services déconcentrés de l'État. Les nouvelles dispositions législatives introduites par la loi du 24 mars 2014 réservent la mise à disposition des services de l'État aux communes compétentes de moins de 10 000 habitants n'appartenant pas à un établissement public de coopération intercommunale regroupant 10 000 habitants ou plus et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents dont la population totale est inférieure à 10 000 habitants. Dans le cadre de l'assistance juridique et technique ponctuelle pour l'instruction des demandes de permis de construire prévues à l'article L422-8, les collectivités peuvent bénéficier de la part des services de l'État d'un conseil en amont et d'une expertise pour les projets ou situations complexes, d'une animation et information dans le cadre du réseau, d'une veille juridique et jurisprudentielle. Vu la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et à un urbanisme rénové et son article 134, vu le code de l'urbanisme et notamment les articles L422-1 et L422-8, vu la circulaire du 4 mai 2012 relative à l'organisation de l'application du droit des sols dans les services déconcentrés de l'État, vu la circulaire du 18 juin 2013 relative à la réforme de la fiscalité de l'aménagement, vu la délibération numéro 5707-19 du 11 octobre 2007 confiant à la DDT le soin d'assurer l'instruction des permis, certificats d'urbanisme et déclarations préalables, vu la délibération numéro 2010-134 du 28 octobre 2010 confiant au service de la direction départementale des territoires le soin d'instruire pour le compte de la commune les permis de construire et certificats d'urbanisme de type B opérationnel, considérant qu'une convention est nécessaire afin de définir, outre les missions d'assistance en phase transitoire, les modalités d'accompagnement de la commune appelée à instruire ou faire instruire dans le cadre d'une autre structure les demandes d'autorisation et actes relatifs à l'occupation des sols délivrés au nom de la commune, conformément aux nouvelles dispositions en vigueur. Considérant que la dite convention est prévue pour une durée maximum de 6 mois à compter du 1er janvier 2015. Elle comporte deux phases. La première phase, instruction des actes d'urbanisme, prendra fin le 31 mars 2015. La seconde phase, assistance pour l'instruction, se terminera dès la mise en place de la structure chargée d'instruire les demandes d'autorisation et actes relatifs à l'occupation du sol délivrés au nom de la commune et au plus tard le 30 juin 2015. Il est demandé au conseil municipal d'approuver les termes de la convention, d'autoriser monsieur le maire à signer cette convention et tout document s'y afférent. Monsieur Mengui.
Donc il s'agit d'une convention transitoire, si j'ai bien compris, vous me corrigez. Absolument. Le temps que la communauté de communes se mette d'accord sur la façon dont l'instruction des...
Exactement.
Puisque donc a priori, pour l'instant, il y a toujours un différend au sein de la communauté de communes par rapport à cette question-là. Voilà. Et qui devrait être tranché, si j'ai bien compris, au prochain conseil communautaire.
Exactement, vous avez tout compris.
Eh bien voilà, merci. Voilà.
C'est très bien. Non, mais effectivement, de manière un petit peu imprévue, lors du dernier conseil communautaire, un certain nombre de communes n'ont pas voulu mettre en place ce service qui se serait substitué aux communes. Et donc malheureusement, on n'a pas pu passer au vote. Nous avons dû retirer le dossier en conseil communautaire et le reporter au conseil communautaire suivant. Et nous espérons cette fois aboutir à un accord. Y a-t-il d'autres questions ? Eh bien, nous passons au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Dossier numéro 10. Mise à jour du tableau de classement des voies communales. Rapporteur Hervé Auriac.
L'article L141-3 du Code de la voirie routière fixe la compétence du conseil municipal pour le classement et le déclassement des voies communales. Suite à la mission de diagnostic confiée au cabinet Bétard portant sur la mise à jour du tableau de classement des voies communales, approuvée lors de la délibération du 11 octobre 1963 et complétée lors de la délibération du 8 décembre 1998, puis du 27 juin 2005 par le conseil municipal. Vu l'ordonnance 5915 du 7 janvier 59 relative à la voirie des collectivités locales, vu la loi 89-413 du 22 juin 89 relative au code de la voirie routière, vu le code de la voirie routière, notamment l'article L141-3, vu le code rural, notamment l'article L161-1, vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L2131-2, il est demandé au conseil municipal d'approuver le classement dans la voie communale dite urbaine, les voies communales suivantes: le chemin battu, le chemin du stade, la rue Constant-Latour, la traverse de la Clavonne. D'approuver le classement dans la voirie communale les voies suivantes: la rue du Jonquier, l'impasse du Jonquier, le chemin de la Chapelle, le chemin de Canredon, la rue Saint-Exupéry, le chemin du Moulin d'Huile, le chemin de Rasteau, la rue Antoine-Laurent-de-Lavoisier, la rue André-Marie-Ampère, la rue Louis-Joseph-Guy-Bussac, la rue Jules-Ferry, le chemin du pont de la Loze, le chemin des Combes, l'impasse des Iris, l'impasse Alphonse-Daudet, l'impasse des Genets, l'impasse des Coquelicots, l'impasse La Rigole, allée Louis-Joseph-Guy-Bussac, chemin du Vieux-Pont, chemin de la Procession, chemin Jean Moulin, chemin Bellefeuille, la voirie du lotissement Les Hortensias Bis, la voirie du lotissement Les Cantarelles, la voirie du lotissement Loussou-Léado, la voirie du lotissement Les Romarins. D'approuver le classement dans la voirie rurale les voies suivantes, l'impasse des Bruyères, et d'autoriser monsieur le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Question. C'est une régularisation.
Oui, une mise en adéquation de la réalité administrative avec la réalité des faits. Alors, je mets au voix.
Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Dossier numéro 11. Création d'emplois non permanents. pour faire face à un accroissement saisonnier d'activités, service, enfance, jeunesse, rapporteur Antonio Muga.
Vu l'article 3, alinéa 2 de la loi du 26 janvier 1984 modifié, vu le budget de la commune, considérant qu'il est nécessaire de recourir à l'emploi d'agents non titulaires pour faire face à un accroissement saisonnier d'activité, considérant que ces agents exerceront à titre principal les fonctions d'adjoint d'animation territoriale de deuxième classe. Oui, la proposition de Monsieur le maire de créer ces postes d'adjoint d'animation territoriale de deuxième classe. Il est demandé au conseil municipal d'accepter de créer les postes suivants pour un accroissement saisonnier d'activité. 7 postes d'adjoint d'animation territoriale de deuxième classe à temps complet pour le service enfance-jeunesse. D'imputer les sommes afférentes à cette dépense au chapitre 012 du budget principal de la commune.
Y a-t-il des questions ? Pas de questions, eh bien je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Bien écoutez, l'ordre du jour est épuisé. Y a-t-il des questions diverses ? Monsieur Arcuzet.
Oui, c'est des questions concernant l'état des décisions du maire.
Oui, effectivement, comme ça, ça me permet de me rendre compte que j'ai oublié de l'évoquer et de vous demander si vous aviez des questions à poser sur l'état des DIA et les décisions du maire qui vous sont rapportées trimestriellement.
Ça tombe bien. J'ai des questions à vous poser, monsieur le maire.
Je vous en prie.
La première concerne la convention de formation pour les élus. Donc, une formation qui aurait été dispensée le 15 novembre 2014 pour un montant de 2 500 € TTC. Donc, qui comprend la formation, le déjeuner, la location de la salle. Avec un ordre du jour très dense, donc j'imagine que ça a été dense. Alors la question c'est de savoir qui a participé, à quel endroit et pourquoi ces formations n'étaient pas ouvertes aux élus de l'opposition.
Alors, votre dernière affirmation n'est pas exacte. Comme vous devez le savoir, puisque vous êtes un ancien élu, la formation des élus c'est une démarche individuelle. Et au début du mandat, j'ai annoncé, voilà, il y a un budget obligatoire dans chaque commune pour la formation des élus, budget obligatoire mais très restreint, 2 500 €. Je crois d'ailleurs que c'est 2 500 €. Bon. Donc j'ai dit, lors des premiers conseils municipaux du mandat, attention, c'est à vous, c'est une démarche individuelle, c'est donc à vous de faire une demande de formation en tant qu'élu. Et si le budget est suffisant, bien entendu, nous vous permettrons de suivre cette formation. Donc, encore une fois, à titre individuel, un certain nombre d'élus de la majorité, mais aussi de l'opposition, où on fait part de leur demande de formation. Et c'est donc dans ce cadre-là que nous avons organisé cette formation sur, en particulier sur les marchés publics et sur les finances publiques. Cette formation a été dispensée à Suze-Larousse avec les formateurs du CFL. Je pense que si vous vous êtes renseigné sur cet organisme de formation qui est agréé par le ministère de l'Intérieur, vous aurez constaté que le CFL intervient dans beaucoup de collectivités, quelle que soit la couleur politique des dites collectivités. Voilà. Voilà comment s'est déroulée cette formation. Donc j'insiste sur le fait qu'il s'agit d'une démarche individuelle et que, quand nous avons un certain nombre d'élus qui ont demandé une formation, encore une fois, individuellement, eh bien nous les réunissons et nous organisons la dite formation. Et je n'ai pas eu de demande, par exemple, de votre part, monsieur Arcuzet.
D'accord, non mais dont acte. Ceci dit, quand c'est une formation qui du coup c'est un forfait que vous avez payé, donc quel que soit le nombre de participants, le coût était le même. Là c'est pas un coût unitaire.
Non. En fait, vous imaginez bien que c'est, on n'est pas tombé dans les prix du marché, on est tombé bien plus bas. Hein, on a fait valoir à l'organisme de formation que le budget était très petit et donc ils ont fait un très gros sacrifice pour rentrer dans le budget, quoi, en fait. Hein.
Donc, si vous réorganisez des formations collectives, c'est aussi bien de donner l'information pour qu'on puisse y accéder.
Ah, mais encore une fois...
D'accord, j'ai bien compris, c'est voilà. Une demande individuelle
faites
et le, c'est à nous de faire
la demande. Faites-le, certains l'ont fait dans l'opposition, pourquoi pas vous ?
D'accord. La deuxième question concerne l'avenant à la convention d'études concernant l'association Habitat et Développement. Il est indiqué pour un montant de 32 120 euros hors taxe. Est-ce que c'est le montant total de l'étude ou c'est le montant uniquement de l'avenant ?
C'est le montant total de l'étude. L'avenant, c'est 7 120 euros hors taxe.
D'accord. Donc, ce n'était pas très bien formulé dans votre document.
Eh bien, oui, nous essayons effectivement d'être synthétiques dans ce tableau, mais libre à vous de poser les questions qui s'imposent. D'autres questions ? Monsieur Mengui.
Oui, et sur le contrat de fourniture de gaz naturel, moi j'ai été surpris parce que au dernier conseil municipal, on avait délibéré sur une convention concernant un groupement de commandes sur l'énergie. Alors, j'ai été étonné que cette décision se prenne en dehors de ce groupement de commandes. D'une part, et puis d'autre part, je voudrais savoir si vous avez fait jouer la, si vous avez fait jouer la concurrence sur cet appel de, oui. Comment dirais-je, de fourniture de gaz naturel. Est-ce qu'on pourrait connaître les fournisseurs qui se sont fait connaître?
Tout à fait. Nous ferons passer les fournisseurs qui se sont fait connaître. Et pour répondre à votre première question, en fait, dans le cadre de l'achat mutualisé d'énergie, le gaz n'était pas compris, c'était que l'électricité. Ça, c'est pas forcément la volonté de la commune de Camaret, mais comme nous sommes plusieurs, nous sommes entendus, uniquement nous avons obtenu un accord que sur l'électricité.
Et 36 mois, je pense que vous avez opté pour un prix ferme.
Ah, tout à fait, oui.
D'accord. Parce que comme le gaz est à un prix très très volatile, il vaut mieux effectivement partir sur des dispositions de ce type-là. Parce que la durée de 3 ans, c'est long. Et s'il y a modification des tarifs en cours de marché, c'est embêtant. D'accord, merci.
Y a-t-il d'autres questions diverses ? Dans ce cas, je vous remercie pour votre participation active et je vous invite à participer au prochain conseil municipal qui va être le 19 février, non pas à 19h, comme habituellement, mais à 18h30 en raison de la soirée Crespeou organisée par Ciné Ravelin. Donc 18h30 le 19 février. Merci et je vous souhaite une bonne soirée.